un podcast France Culture.
Il y a le Shakespeare du Songe d'une nuit d'été, de Roméo et Juliette et de Macbeth, et celui du Marchand de Venise, de Timon d'Athènes et de Troilus et Cressida, des pièces de théâtre moins connues dans lesquelles il est question de prêts, d'échanges et de dons d'argent. À l'époque d'Élisabeth Ier, au XVIe siècle, le commerce se développe et le royaume d'Angleterre, en pleine croissance, est bousculé par la flambée des prix. William Shakespeare, lui, fait dire à Hamlet « l'usage peut presque changer l'empreinte de la nature » comme une première définition de l'économie. Pour explorer l'économie, selon William Shakespeare, nous avons le plaisir de recevoir Dominique Goy-Blanquet, professeur émérite de littérature élisabéthaine à l'université de Picardie, autrice de cet ouvrage « Shakespeare et l'invention de l'histoire », guide commenté du théâtre historique aux éditions Classique Garnier. Également avec nous Marie-Céline Daniel, maîtresse de conférences en civilisation britannique à Sorbonne Université. Une émission préparée par Diane Devancet, Tina Young, Léa Sabourin, Candice Bergeron, Léopold Thiévan et Inès Gender. Bonjour Marie-Céline Daniel et Dominique Goy-Blanquet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors William Shakespeare est un immense dramaturge, mais c'était aussi un entrepreneur, un homme d'affaires, Dominique Goy-Blanquet.
En effet, qui s'est beaucoup enrichi, pas vraiment par les pièces qu'il a écrites, qui ont profité aux autres, mais parce que d'abord il était actionnaire du Globe à partir du moment où s'est construit ce théâtre au sud de la Tamise. La compagnie s'est répartie les parts, les actions du Globe, et c'est cela qui lui a rapporté de l'argent, parce que une fois qu'un auteur a écrit une pièce de théâtre, elle appartient, il reçoit une paye et elle appartient à la compagnie qu'il a engagée. Donc il n'a plus ensuite de droit d'auteur. Et avec l'argent qu'il a acquis donc en tant que shareholder, il a acquis
actionnaire
aussi d'importantes propriétés à Stratford, sa ville de naissance, où il est retourné quelques années avant sa mort, et il a fait l'acquisition d'un certain nombre de propriétés assez importantes dans la ville.
Marie-Céline Daniel.
Oui, alors effectivement, Shakespeare, on le connaît comme l'immense dramaturge un peu majuscule de cette période élisabéthaine, par ailleurs riche en dramaturge et en spectacles théâtraux. Il y a beaucoup de mystères autour de Shakespeare. Régulièrement, on nous dit qu'il n'a pas écrit ses pièces, que d'autres l'ont fait à sa place, que peut-être même il n'aurait pas existé. Il y a de fait des années où il disparaît, on ne sait pas trop ce qu'il devient. Donc il y a un peu un brouillard autour de Shakespeare, mais il y a effectivement une facette de Shakespeare qui est assez loin effectivement des pièces que vous avez citées, mais qui montre un homme ancré dans sa réalité, la réalité d'une économie effectivement en développement sous la période élisabéthaine, avec de grosses difficultés néanmoins, et qui lui va finalement très bien tirer son épingle du jeu.
Alors justement, parlons de l'économie de cette période élisabéthaine. Lorsque Shakespeare naît en 1564 à Stratford-upon-Avon, Élisabeth Ier est sur le trône depuis 6 ans et les caisses de l'État sont vides parce que le père d'Élisabeth, Henri VIII, était un roi extrêmement dépensier, Marie-Céline Daniel.
Oui, alors c'est un des aspects d'Henri VIII, il y en a quand même d'autres. Après, pour rendre, si ce n'est à César ce qui est à César, mais un petit peu de sa réputation, il n'est pas le direct prédécesseur d'Élisabeth. Il y a quand même deux rois, donc le frère cadet et la sœur aînée d'Élisabeth qui sont sur le trône avant. Hein,
Bloody Mary, Marie la Sanglante.
Voilà, mauvaise réputation aussi. Et puis Édouard, le dernier fils d'Henri qui est le premier à monter sur le trône à la mort de son père. Donc il y a effectivement un certain nombre de problèmes financiers. Tout ne vient pas d'Henri VIII quand même, faut au moins lui ajouter ça. Mais disons que quand Henri VIII arrive au pouvoir, lui, en 1509, il succède à un père qui a mis énormément d'énergie à essayer de reconstituer une forme de trésor royal. Et c'est vrai que en général, on vide plus rapidement qu'on ne remplit. Et donc effectivement, Henri VIII va tirer beaucoup, beaucoup sur les finances royales, avec des choses qui vont être dans l'intérêt direct de Shakespeare plus tard, hein, une multiplication des spectacles notamment, qui vont coûter très cher à la couronne. Et donc effectivement, Élisabeth hérite d'une situation financière qui n'est pas simple et d'une situation intérieure qui est quand même très très compliquée, au-delà des problèmes financiers, avec des questions religieuses notamment.
Et ce qui caractérise ce royaume d'Angleterre sur le plan économique pendant le règne d'Élisabeth Ier, c'est l'inflation, une hausse généralisée des prix, qui est ancienne, hein, qui démarre je crois dès la fin du XVe siècle.
Oui, qui est un phénomène ancien, qui n'est pas un phénomène proprement anglais. Hein, d'un certain nombre d'historiens ont parlé de révolution des prix sur cette période de la Renaissance, avec un élément qui joue peu pour l'Angleterre, à mon avis, qui est l'afflux, en fait, fait d'argent et d'or venus des Indes, voilà, et qui vont pour le coup effectivement assez affecter l'économie espagnole, mais une hausse des prix générale qui est liée à un certain nombre de phénomènes, et notamment à un phénomène de croissance démographique très forte sur la période. L'Angleterre a été, comme l'Europe, très largement affectée par la grande peste du milieu du XIVe, et va mettre un certain temps à reprendre une hausse démographique assez forte. L'absence de changements technologiques ou techniques qui augmentent la production agricole, qui est quand même essentiellement vivrière à l'époque. Et donc, il va y avoir une inflation des prix, qui est encore une fois un phénomène européen, qui est pour la première fois un phénomène très long. En général, il y a dès le Moyen-Âge, des périodes où les prix augmentent assez logiquement suite à des accidents climatiques ou des choses comme ça. Mais là, effectivement, c'est un phénomène qui dure sur plus d'un siècle et qui va affecter durement l'Angleterre, et notamment toutes les personnes qui en Angleterre vivent en ville, qui elles sont extrêmement tributaires du prix de vente des biens, puisqu'elles ne produisent pas pour elles.
Dominique Boisblanquet.
Oui, j'allais ajouter qu'il y avait un point en faveur d'Élisabeth et de son règne, c'est que tout ce que disait Marie-Céline est très juste. Il y a d'ailleurs énormément de causes qui bouleversent le paysage social à l'époque. Il y a la vente des biens du clergé qui va complètement transformer la propriété. On en reparlera probablement à propos de Shakespeare, parce qu'il va bénéficier de certaines de ces mesures. Et puis alors, sous le règne d'Élisabeth, quand même, il y a un dénommé Gresham qui va donner son nom à une loi très connue, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Et du coup, il va y avoir à partir des années 60 une entreprise de reprise en main pour enrayer ces dévaluations qui avaient été considérables, je crois que c'était sous le règne d'Édouard VI. Et peu à peu, justement, on va rétablir la parité entre l'or et l'argent, notamment, et rétablir un peu la situation économique. Mais beaucoup de choses vont bouleverser le paysage. Il y a les raisons qu'a indiquées Marie-Céline. Il y a donc cette vente des biens du clergé. Le fait aussi que l'Église ne joue plus le rôle de charitable qu'elle remplissait, qui va être maintenant donné aux municipalités.
Oui, le regard sur les pauvres va évoluer. On va en parler. C'est un point extrêmement important et très intéressant. Peut-être d'abord, Dominique Boisblanquet, vous pouvez nous rappeler, si vous le voulez bien, dans quelle frange sociale de la population le petit William Shakespeare naît, puisque on a parlé de l'inflation, et c'est une inflation qui entraîne un certain bouleversement de la hiérarchie sociale. Qu'est-ce qu'on peut dire de sa famille ?
Sa famille, son père, qui est il est tanneur, gantier, donc suit toute la chaîne de l'animal, de la bête qu'on élève à celle qu'on abat et au cuir qu'on en tire. On va retrouver tout cela d'ailleurs dans les métaphores des textes. Il est assez, assez riche, disons. Il sera un des échevins de la ville de Stratford. Il sera même maire à un moment donné. Ce qui va lui arriver, c'est que c'est ce qu'on appelle un récusant, c'est-à-dire un catholique qui ne s'est pas rangé aux conditions de la réforme et qui va subir des amendes lourdes qui vont le ruiner. Donc Shakespeare commence, pour ce qu'on en sait, dans un milieu qui n'est pas miséreux. Il va à l'école. On est certain qu'il a existé. La controverse porte surtout sur est-il ou n'est-il pas l'auteur de ces pièces. Alors les arguments sont toujours les mêmes, quel que soit le vrai auteur, entre guillemets. Donc on va peut-être pas s'attarder là-dessus. Mais disons qu'en gros, les doutes ne viennent d'abord que très tardivement, fin du XVIIIe, et il commence avec le biographisme. Comment est-ce que ce garçon, petit provincial, fils d'artisan, d'une famille d'illettrés, aurait pu écrire ses pièces? Voilà, c'est à peu près ça qui se passe, et ça n'arrête jamais.
Et oui, c'est justifié par le fait qu'on a peu d'éléments, en effet, comme vous le disiez, Marie-Céline Daliel, sur la vie de Shakespeare. Il y a toute une période en particulier entre 1585-1592 oui, où on n'a plus de traces de lui. On nomme cela, je crois, les années perdues. On ne sait pas où il est. Peut-être qu'il voyage, on ne sait pas bien.
Voilà, alors là aussi, c'est une machine à fantasmes absolument infinie, voilà, de savoir où il est parti. Alors, ce qui est très intéressant dans ça, enfin, moi, je trouve très utile, en tout cas, en tant qu'enseignante, c'est de montrer que ce sont des périodes qui restent très incertaines. En fait, où effectivement les gens peuvent disparaître. Alors aujourd'hui, ils arrivent déjà à disparaître, mais alors à l'époque, évidemment, c'est assez simple, même sans le vouloir, en fait. De fait, il disparaît des traces. Je pense que chez Shakespeare, il y a aussi une forme de comparaison, de concurrence qui s'est installée avec le temps avec un autre auteur qui s'appelle Marlowe, qui est un immense dramaturge, qui, lui, va avoir des activités politiques un peu cachées dans les milieux, effectivement, dans les milieux de la controverse religieuse, etc. Et je pense qu'il y a une volonté de faire de Shakespeare autre chose que peut-être juste ce très grand dramaturge, sur un modèle un peu à la Marlowe, qui va mourir dans des circonstances un petit peu brutales dans une taverne et dont la vie est beaucoup plus courte que celle de Shakespeare, parce qu'en gros, il est à peu près son contemporain, mais il meurt beaucoup avant même que Shakespeare ait véritablement lancé sa propre carrière, en ayant laissé des très grandes pièces. Et donc, je crois qu'il y a eu un peu peut-être une espèce de contamination de la part des fans de Marlowe, en disant, mais non, mais Shakespeare, forcément, lui aussi, a eu quelque chose. Et en fait, peut-être pas. Peut-être que juste, il a eu une vie tranquille pendant 3 ans, et qu'on ne sait pas, et que voilà, il n'y a rien à chercher. Mais en tout cas, c'est sûr que ça participe du mythe, clairement.
Et c'est une vie qu'on est obligé d'imaginer en partie, et c'est ce qu'a fait John Madden, le réalisateur de Shakespeare in Love. Oui. Dans son film, le jeune William croule sous les dettes à l'été 1593. Il doit écrire une pièce pour le financier Philip Henslowe, propriétaire du théâtre The Rose. Une pièce intitulée « Roméo et Ethel, la fille du pirate ».
Je suis un homme mort au bord de la ruine. Mon théâtre est fermé pour cause de peste depuis 12 semaines. Mes acteurs en seraient bien joués dans toutes les cours d'auberge d'Angleterre, alors que Monsieur Purberge et sa troupe du chambellan sont invités à la cour et reçoivent 10 livres pour jouer une pièce écrite par toi, écrite pour mon théâtre, par mon auteur, à mes risques, quand tu étais encore un modeste débutant.
Quelle pièce, Richard le Bossu?
Non, c'est de la comédie qu'il va jouer, de la comédie comme Roméo et Ethel.
Qui a écrit cela?
Personne, tu devais l'écrire pour moi. Je te donne 3 livres il y a un mois de cela.
La moitié de ce que tu me devais, tu me dois encore un des 2 gentilshommes de Vérone.
Will, qu'est-ce que l'argent pour toi et moi? Je suis ton protecteur et tu es mon faiseur de mots. Quand la peste sera passée, Burbert, j'aurai une nouvelle pièce de Christopher Marlowe pour le théâtre du Rideau et moi, je n'aurai rien pour le Rose.
Monsieur Henslowe, me prêteriez-vous 50 livres?
50 livres? Mais pourquoi faire?
Burbage offre de m'associer à sa troupe de comédiens. 50 livres et je n'ai plus à courir partout après un emploi.
Oh. Arrache-moi le cœur. Jette mes tripes aux chiens.
C'est non, alors?
L'économie selon William Shakespeare, c'est notre sujet aujourd'hui sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, nous sommes en compagnie de Marie-Céline Daniel et Dominique Gouas-Blanquet. Et on vient donc d'entendre un extrait du film Shakespeare in Love avec les acteurs Joseph Fiennes et Geoffrey Rush. On entend que dans cet extrait, William Shakespeare a besoin de Philip Henslowe. Pourquoi a-t-il ainsi besoin, comme les autres dramaturges d'ailleurs, d'un protecteur, Dominique Gouas-Blanquet?
Parce que les comédiens sont susceptibles de tomber sous le coup de la loi contre le vagabondage. Et ils vont en général chercher la protection d'un noble. Alors il y a la troupe du chambellan, la troupe de la reine, la troupe de l'amiral, qui ne leur donne pas de revenus particuliers. Ils sont de temps en temps conviés par ses patrons protecteurs à donner une représentation pour laquelle ils sont payés. Mais autrement, c'est surtout qu'ils ont le droit de porter sa livrée et son nom et qui les protège. C'est une des grandes préoccupations effectivement de tout le règne. Déjà de distinguer entre les bons et les mauvais pauvres. Alors les vétérans blessés auraient droit à un secours, mais il y a toutes sortes d'escrocs dont on se méfie. Il y a un exemple d'ailleurs dans une pièce de Shakespeare où il y a un couple dont le mari se fait passer pour infirme et le très sage protecteur détecte la tromperie et on les chasse à coups de fouet, ce qui était le sort réservé effectivement aux mauvais pauvres à l'époque.
Shakespeare, dans l'extrait que l'on vient d'entendre, évoquait James Burbage. C'est un personnage important pour comprendre comment sont apparus les tout premiers théâtres permanents sous le règne d'Élisabeth
Ier. C'est celui qui a créé effectivement le premier théâtre. D'abord, probablement, une construction qui a été évoquée dans une cour d'auberge et ensuite, alors, ce qu'il a appelé The Theatre. Le théâtre et où la troupe de Shakespeare a joué pendant de nombreuses années. Les deux fils de James Burbage étaient installés sur un terrain qui appartenait à un certain William Allen, je crois, qui un beau jour a voulu récupérer son terrain et comptait bien récupérer le théâtre avec. Sauf que de nuit, on a démonté en vitesse les planches du théâtre et on les a transportées à l'emplacement où a été reconstitué le globe il y a quelques années. Et on a reconstruit ce théâtre qui est devenu alors le grand théâtre de la compagnie de Shakespeare.
Et alors justement, comment est-ce que Shakespeare réussit à se faire un nom sur la place de Londres? Est-ce qu'on sait cela, Dominique Guablanquet? Est-ce que c'est lorsqu'il entre dans la troupe des Chambers Main?
C'est au moment, la première fois, je crois, où on entend parler, c'est de manière assez hostile, c'est dans un pamphlet de Robert Greene qui se plaint qu'il y a un individu paré de leurs plumes qui se prend pour le seul branle-scène, Shakespeare, de leur génération. Et à partir de là, on s'aperçoit donc, et il cite un passage de la troisième partie de Henri VI. Donc manifestement, Shakespeare a déjà écrit plusieurs pièces et il a déjà eu suffisamment de succès pour susciter un peu de jalousie.
France Culture.
Nous sommes au bord de la Tamise, dans un de ces théâtres de bois qui ressemblent à un cirque et sont situés dans le plus bas quartier de Londres. Le public afflue dès deux heures, aux galeries en haut et jusque sur la scène, les nobles et les riches bourgeois, assis sur des escabeaux à trois pieds. En bas, la foule, ceux que l'on nomme les puants, debout. On crie du vin, de la bière, des pommes et des noix, qui seront peut-être jetés à la figure des traîtres ou des mauvais acteurs.
Entendez-vous l'écho?
Les pièces font à chaque occasion appel et référence à l'actualité, ce qui n'est pas sans risque pour les auteurs qui vont souvent croupir dans les cachots de la prison de Newgate.
Tiphaine de Roquigny.
Voilà. Une petite visite du globe. À quoi ressemble le public du théâtre, Elisa Bétain, Dominique Guablanquet?
Alors, il y a ceux qui sont assis sur les gradins, qui payent un petit peu pour être assis et pour avoir une vue plongeante sur la scène. La scène avance au milieu du public. Et alors là, ceux qui ne payent qu'un penny, je crois qu'on appelle les groundlings, ceux qui restent sur le sol, sont tout autour, sur trois côtés du plateau. Et donc, il y a une grande part de ce qu'on considère maintenant comme des monologues, qui en réalité sont des discussions avec le public qui réagit, qui donne son avis éventuellement, qui sans doute balance de temps en temps aussi des projectiles.
Et ce sont des artisans, des apprentis?
Ce sont des artisans, des apprentis. On dit souvent que la totalité de l'éventail social est représentée. C'est presque vrai, pas tout à fait, parce qu'il y a une grande partie de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, donc qui n'a pas les moyens de payer même le penny pour entrer. Mais disons qu'à partir des apprentis, oui, on a pas mal de traces de spectateurs, et l'éventail va de ces apprentis jusqu'à l'aristocratie, dont certains parfois sont assis directement sur la scène.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, vous l'avez dit, hein, Shakespeare va devenir actionnaire du Globe en 1599 avec d'autres membres de sa troupe. Et là, ils ont un grand succès, à tel point qu'ils peuvent acheter un autre théâtre,
oui,
de Dominique Guablanquet.
Qui va leur attirer aussi des difficultés, d'ailleurs, parce qu'il s'agit d'un théâtre fermé, Blackfriars, qui évidemment serait un grand avantage, parce que le Globe en plein air, c'est souvent, vu le climat, difficile, les intempéries, et le théâtre fermé permettrait de faire des effets de lumière. Mais malheureusement, ce théâtre se situe, c'est un ancien monastère, il se situe sur une franchise dont les habitants vont réussir à empêcher la troupe de Shakespeare de jouer pendant 10 ans à peu près. Donc c'est seulement assez tard.
À cause du puritanisme?
Oui, aussi, parce qu'on trouve que, oui, le puritanisme, mais d'une manière générale, on trouve que ça fait désordre, le théâtre est une incitation à la débauche, mais aussi les acteurs sont réputés, souvent à tort, être même des gens de très, très mauvaise vie, donc on n'en veut pas. Il y a des troupes d'enfants qui ont joué déjà à Blackfriars, et puis ça va être aussi le lieu d'une scène dans une pièce plus tardive de Shakespeare, dans Henri VIII, parce que c'est à Blackfriars, donc à l'endroit où ils vont jouer Henri VIII, qu'a eu lieu une sorte de procès de Catherine d'Aragon, la première épouse d'Henri VIII, qui va être convoquée devant cette espèce de cénacle qui va prononcer le divorce ensuite. Et donc, on va voir la scène dans le lieu où elle s'est réellement déroulée.
Alors, vous l'avez dit, presque toute la société est représentée dans ce public du théâtre élisabétain. Et c'est une époque, on commençait à en parler, où le regard sur les pauvres évolue. Leur statut va être redéfini, Marie-Céline Daniel?
Oui, alors il faut pas aller trop vite. On a souvent une vision l'impression que les choses changent à cette époque-là parce qu'il y a bien plus tard, sous l'ère victorienne, des lois qui ont le même nom que les lois portées par Elisabeth à la fin du XVIe siècle, qui sont les Poor Laws, qui là sont effectivement empreintes d'une dimension moralisatrice très très forte. Je pense qu'à l'époque d'Elisabeth, les choses sont moins claires. Alors d'abord, elle est pas du tout à l'initiative de ça. Il y a des Poor Laws, il y en a bien avant Elisabeth, il y en a même pendant la guerre de 100 ans, en l'occurrence. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important parce que, effectivement, les pouvoirs publics, même naissants, même balbutiants, s'interrogent sur ces populations avec un prisme qui n'est pas tant la morale au départ que la question de l'ordre public. Oui. Et la prise de conscience, enfin, ou la conscience qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à faire dans un État qui existe à peine, avec des municipalités qui ne sont pas très opératoires. Et effectivement, comme le disait Dominique Boisblanquet, la dissolution des monastères dans les années 1530, qui déstructure fondamentalement le système d'aide. Voilà, la capacité d'action des pouvoirs publics est limitée. Et donc, on va essayer de trouver des solutions pour faire que l'ordre public soit le mieux maintenu. Et ça va prendre la forme de cette question du tri entre le bon et le mauvais pauvre, qui à l'époque n'est pas, là encore, pas formulé de cette manière-là, mais qui est celui qui doit véritablement être aidé et celui qui pourrait faire un effort pour se prendre en main et ne pas peser sur la communauté, et la question du vagabondage, qui est une obsession élisabéthaine et qui va ne faire que s'accroître tout au long du règne, avec la nécessité de maintenir les gens autant que possible là où ils sont nés, là où ils vivent, pour éviter notamment des phénomènes d'attaque en fait, et de vol sur les routes, qui va être là aussi une espèce de paranoïa élisabéthaine sur la fin du règne, avec cette idée que des hordes de vagabonds attaque voilà, les voyageurs. Sans doute moins clair que ça, mais en tout cas, clairement, il y a une vraie inquiétude.
Cette figure du pauvre apparaît dans les pièces de William Shakespeare, et en particulier dans Le Roi Lear, qui a été écrit entre 1603 et 1606. Dans cette pièce, le roi, trahi par ses filles, délire sous un orage violent et il entre dans une hutte où se cache Edgar, déguisé en mendiant. Écoutez la complainte du Roi Lear.
Poor naked wretches. Wheresoe'er you are that bide the pelting of this pitiless storm.
Pauvre miséreux tout nu, où que vous soyez, vous qui souffrez des lapidations de cet orage. Comment vos têtes sans toit, vos flancs sans nourriture et vos haillons criblés de trous peuvent-ils vous défendre contre des temps comme celui-ci?
Oh, I have taken too little care of this.
J'ai trop peu pris souci de ceci. Prends médecine, opulence. Expose-toi à sentir ce que sentent les malheureux, afin de secouer vers eux ton superflu et de leur montrer un ciel plus juste. Voilà cette tirade du Roi Lear, interprétée ici par Michael Hordern dans une mise en scène de Jonathan Miller pour la BBC en 1982, fait directement écho à cette préoccupation nouvelle pour les pauvres, Dominique Boisblanquet.
Oui. Il y a eu, le roi le découvre alors que lui a été à l'abri de même la connaissance de la pauvreté. Il y a un phénomène important qui est aussi ancien mais qui va reprendre de l'ampleur, qui est celui des enclosures. Les populations qui vagabondent sont souvent des gens qui ont été obligés de quitter leur village parce que justement ils avaient ce droit à la libre pâture sur ce qu'on appelait les terres communes, qui a été de plus en plus repris par des propriétaires qui élèvent des moutons, qu'on va tondre pour envoyer la laine à la Staples, c'est-à-dire à Calais, raison pourquoi aussi on va pleurer sur la perte de Calais, qui était vraiment le débouché pour ce produit de la laine. Et donc les paysans qui se retrouvent chassés de chez eux vont devenir les vagabonds de ces foules. Et un des reproches qui est fait à Shakespeare par l'auteur dramatique Edward Bond, c'est qu'il a profité de ce système d'enclosure, qu'il ne l'a pas dénoncé, qu'il s'est enrichi en acceptant un accord avec la ville de Stratford qui lui permet de récolter ce qu'on appelle les tithes, c'est-à-dire les bénéfices des enclosures. Et donc une malheureuse qui vient mendier chez lui va être pendue. Et selon Edward Bond, c'est le remords qui fait qu'il se suicide à la fin de la pièce Bingo. Et pour Edward Bond, ce serait la seule excuse pour Shakespeare qui a bénéficié justement de tous les avantages et toutes les richesses et qui est resté sourd à la pauvreté. Donc il ne lui rend pas tellement justice à propos du roi Lear. Et vous avez raison, c'est un passage où là on entend ce que c'est que la misère.
Et c'est intéressant parce que Edgar, ce n'est pas un mendiant, il est simplement déguisé en pauvre.
Et dépouillé, parce que son père l'a déshérité à cause de la dénonciation d'un demi-frère bâtard, ce qui est toujours mauvais signe à l'époque, et jaloux.
Et comment est-ce qu'il faut interpréter cela, le fait que ce soit ainsi un personnage de noble déguisé en mendiant, Marie-Céline Daniel ?
Alors, je ne crois pas que dans la pièce, il y ait une volonté de mettre en avant ce jeu qu'on reproche effectivement à un certain nombre de mendiants, hein, de ne pas être en gros en incapacité de travailler, parce que c'est vraiment ça le sujet en fait, c'est est-ce que vous êtes able-bodied, est-ce que vous avez un corps qui vous permet de travailler ou pas. Mais en revanche, ce qui est intéressant dans le personnage de Tom, c'est que...
Edgar qui s'appelle Tom.
Voilà, mmh. Et qui parfois se fait appeler, enfin qui dit qu'il s'appelait Tom of Bedlam.
Bedlam est un hôpital.
Voilà, alors Bedlam, c'est un des hôpitaux à Londres qui vont être mis en place précisément suite à la dissolution des monastères pour prendre en charge la pauvreté, l'invalidité et ce qu'à l'époque on considère comme la folie, ce qui est un terme incroyablement large. Et en fait, on voit que cette question de la pauvreté, en réalité, parce qu'elle est d'abord vue sous l'angle du trouble à l'ordre public, va se mettre à englober des situations incroyablement différentes et que ce trait commun, ça va être en gros la marginalité. Alors marginalité pour tout un tas de raisons et vont se retrouver dans ces endroits, donc à Bedlam, il y a d'autres hôpitaux à Londres qui sont chargés de cette gestion-là, des gens dont la situation nécessite une aide collective. Ce qui est extrêmement intéressant à l'époque, c'est qu'effectivement, il y a cette prise de conscience que la collectivité a une responsabilité. L'Église avait pris en charge ça, l'Église ne le fait pas, on essaye de faire en sorte qu'elle le fasse, mais elle ne le fait pas très bien. Et donc, on va demander à la collectivité, et la collectivité, très concrètement, ça veut dire les contribuables, hein. Donc il va y avoir tout un tas de lois qui vont être prises pendant le règne d'Élisabeth, notamment pour essayer de systématiser la collecte d'une taxe qui viendrait en aide à ces gens. Donc il y a une forme, là pour le coup, de maturité assez précoce l'intellection de cette nécessité de prise en charge. Alors on dit pas étatique parce que ce serait là pour le coup presque apocryphe, mais en tout cas une intelligence collective qu'il faut que tout le monde prenne sa part pour que la situation s'améliore.
Voilà. Mais cela n'empêche pas la dureté extrême, c'est-à-dire la peine de mort pour les fainéants, Marie-Céline.
Oui, alors c'est-à-dire qu'en fait, toutes les lois qui sont prises, il y a une dizaine de lois, et la multiplication des lois est toujours le signe que quelque chose ne fonctionne pas, autrement on ne se sentirait pas obligé d'en reprendre systématiquement, et va dans un sens d'une plus grande sévérité des peines, avec effectivement une récidive, c'est-à-dire vous êtes pris, vous n'avez pas le droit de mendier, bon la première fois on vous dit que c'est pas bien, la deuxième fois on vous met au pilori, la troisième fois on vous fouette, et ça peut aller jusqu'à la peine de mort. Alors dans les faits, c'est rarissime, mais enfin néanmoins, c'est effectivement prévu par les textes. Hein. Dans le même temps, la prise de conscience qu'il y a des situations où les gens sont capables de travailler mais ne trouvent pas d'emploi. Et là aussi, il y a dans les textes de la fin de la période une compréhension d'un espèce de chômage subi. Voilà, d'une situation de non-emploi à laquelle il faut répondre parce qu'il peut y avoir des pauvres de bonne foi qui sont mendiants parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi même s'ils aimeraient bien. Et donc, il y a une volonté là aussi, on va demander aux municipalités de s'équiper de biens matériels pour donner du travail aux gens qui en ont besoin. Donc, il y a quand même... Les pourlots sont très durs dans notre vision des choses. Effectivement, elles sont extrêmement difficiles. Et dans le même temps, quand même, on essaye de trouver des solutions qui soient un peu réalistes.
Vous pensez que...
Not to be, that's the question, but not to me, because I know I'll always be in love with you. I see that you're the one, and I'm positive you'll agree, because I'll always love you just the way I do. I will put it like Mr. Romeo when he entered the balcony. He said, Juliet, my fiancée, how'd you like to marry me? To be or not to be, that's the question, but not to me. Because I know that very soon we'll be a happy family. Yeah.
Not To Be par le violoniste et chanteur danois Svend Asmussen. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho? Nous continuons à parler de l'économie selon William Shakespeare. Marie-Céline Daniel et Dominique Guablanquet sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch avec l'aide de Denis Forget et mise en onde par Sébastien Royer. Alors nous parlons de pièces de théâtre mais aussi de pièces de monnaie dans Le Marchand de Venise. Il est question d'économie et en particulier d'usure et de défaut de paiement, Dominique Boisblanquet.
Oui, c'est à la fois le centre de l'action, mais aussi de tout le réseau métaphorique de la pièce. Parce qu'on va avoir d'un côté la ville de Venise, mercantile, et une espèce de lieu idéal, Belmont, où vit une riche héritière. Et le héros désargenté qui vit à Venise, ami d'un riche marchand, veut courtiser la belle héritière et a besoin de ducats. Son ami marchand a tous ses bateaux qui sont au loin en mer, mais il est certain de pouvoir rembourser l'usurier du coin qui se trouve être le juif Shylock, à qui il va emprunter 3000 ducats. Et c'est cela qui lance l'action. Et parallèlement donc à ce monde de l'usure, du commerce au loin, il y a ce lieu protégé, semble-t-il, de Belmont. Le père de la riche héritière a fixé comme règle que le candidat à sa main devrait subir une épreuve, faire un choix entre trois coffrets de plomb, d'argent et d'or. Et s'il perd, il devra renoncer à se marier. Et donc le jeune Vénitien gagne la main de l'héritière qui se définit elle-même alors en termes extrêmement numériques sur le compte qu'elle représente. Et malheureusement, les bateaux n'arriveront pas au port et à ce moment-là, le juif va réclamer sa créance.
Et c'est une pièce vraiment qui interroge le bien fondé de l'usure à un moment où l'Angleterre n'a pas encore de banque dans cette période élisabéthaine. Et donc pour emprunter, il faut se tourner vers les usuriers, Marie-Céline Daniel.
Oui, alors il y a une forme d'exotisme dans Le Marchand de Venise parce qu'effectivement, Venise n'est pas Londres. Venise, c'est la ville un peu là aussi d'un certain nombre de fantasmes et en tout cas d'une économie qui ne va pas vers le mieux en réalité, mais personne ne le sait forcément. Et donc, effectivement, on va regarder les pratiques de l'usure telle qu'elle est faite à Venise, avec effectivement en Italie, déjà des établissements bancaires importants qui existent peu en Angleterre. Et donc, l'Angleterre a un besoin de liquidité. Et là encore, dans une approche réaliste que peut-être les Britanniques d'aujourd'hui ne renieraient pas, il va y avoir une acceptation de l'usure puisque, alors évidemment, l'Église catholique est forcément très hostile. La réforme n'est pas particulièrement tendre avec l'usure non plus, mais il va y avoir une loi au début des années 1570 qui va autoriser la possibilité de prêter à des taux qui ne doivent pas excéder 10%. En gros, la limite qui est mise, c'est 10%. Au-delà de 10%, on est dans l'usure et donc là, effectivement, c'est quelque chose qui est condamnable. Mais voilà, il va y avoir la nécessité parce qu'en réalité, on est dans une période où on manque de liquidité, tout simplement.
Et c'est aussi pour cela que naît le Royal Exchange en 1565, Marie-Céline Daniel.
Oui, alors Gresham, dont on parlait tout à l'heure, la mauvaise monnaie chasse la bonne.
Ministre des Finances d'Elisabeth Ier.
Alors, oui, il n'est pas vraiment ministre des Finances. Il est conseiller, c'est un personnage.
Mais c'est un financier très aiguisé.
Voilà, c'est une dynastie. Il est un des membres de la dynastie, pour le coup. Et c'est un personnage assez intéressant, parce que précisément, il n'est pas véritablement ministre. Il a voyagé, il a été au Pays-Bas longtemps, et on vient le chercher en fait, un peu comme on a pu aller chercher Keynes à d'autres moments de l'histoire. Voilà, on va chercher quelqu'un qui a l'air de savoir et qui va devenir conseiller. Mais un conseiller en fait informel, donc il va très très bien faire financer ses services. Donc sur le plan de son action de consultant, il va très très bien s'en sortir. Et effectivement, il va donner le conseil de créer ce Royal Exchange
sur le modèle
d'Anvers en réalité, puisque lui a vécu là-bas, donc il a vu la bourse fonctionner et donc il va prendre en charge en réalité d'ailleurs. Il va obtenir le terrain et il va prendre en charge à ses frais la construction du bâtiment dans laquelle il va par ailleurs installer tout un tas de bureaux et dont il va vivre très très confortablement jusqu'à la fin de ses jours. Voilà. Mais c'est un conseiller, en fait.
Rush. Vous avez parlé de cet usurier, Shylock, qui est juif et qui est très en colère contre Antonio parce que, eh bien, Antonio enchaîne les défauts de paiement. Est-ce qu'on peut considérer cette pièce comme antisémite de
Ah, c'est compliqué. Déjà, c'est pas tout à fait, je dirais plutôt anti-judaïsme. Enfin, la pièce véhicule de l'anti-judaïsme parce que ça n'est pas lié absolument à la race. Il y a d'autres juifs dans la pièce et au contraire, la fille de Shylock va d'une certaine manière acheter sa sortie en jetant par les fenêtres l'argent que son père a gagné de manière plus ou moins sympathique. Il y a également un ami de Shylock, Tubal. Donc, c'est très différent de ce qu'on a connu dans notre siècle de l'antisémitisme qui vise tout juif indifféremment en fonction de sa race. Mais ce qu'on considère, c'est que les juifs d'abord sont les assassins du Christ et que donc la malédiction contre eux, elle est éternelle et ils font partie de ce qu'on appelle les ennemis irréductibles. Il y a les juifs et il y a les sarrasins. Qui sont les ennemis du Christ, donc parce qu'il peut y avoir des ennemis temporaires avec lesquels éventuellement on se réconciliera, mais ceux-là, non.
Et à l'époque, il y a une tirade assez humaniste à l'égard des Juifs dans cette même pièce, Le Marchand de Venise.
C'est lui qui dit qu'il souffre comme les autres si on le blesse. Cela dit, cette tirade qui est magnifique, que les grands acteurs de Shylock ont joué de manière extrêmement émouvante, ça se termine quand même par une menace et une volonté de tuer son ennemi. Alors, ce qui est très intéressant dans la pièce, c'est qu'au début, il dit qu'il déteste Antonio, d'abord parce qu'il est chrétien, mais ensuite parce qu'il démolit le régime de l'usure à Venise, parce qu'il prête sans bénéfice. Donc c'est ça la cause première. Mais à mesure que la pièce avance et où entre autres la fille de Shylock va s'enfuir avec un chrétien, Shylock devient de plus en plus haineux. Et au moment du procès, parce que la dette n'a pas été payée, on lui propose à un moment donné 10 fois la somme et il refuse parce qu'il veut la peau d'Antonio tellement il s'est mis à haïr justement sa qualité de chrétien.
Allez, on écoute un extrait du Marchand de Venise dans une adaptation au cinéma de 2004 de Michael Radford. Et c'est Al Pacino qui joue le rôle de Shylock.
3000 ducats. Bien.
De cette somme, je vous l'ai dit, Antonio se porte garant. Alors ?
Antonio se porte garant. Bien.
Pouvez-vous m'aider ? Me ferez-vous ce plaisir ?
Antonio est un homme de bien.
Est-ce que vous avez entendu quelque imputation contraire ?
Non. Mon intention, quand je dis que c'est un homme de bien, est de vous faire comprendre qu'il est solvable. Mais ses ressources sont exposées. L'un de ses bateaux est en route pour Tripoli, un autre pour les Indes. En outre, j'apprends sur le Rialto qu'il en a un troisième au Mexique, puis un quatrième qui fait route vers l'Angleterre, et plusieurs autres cargaisons dispersées en mer. Mais les bateaux ne sont que des planches et les marins ne sont que des hommes. Il y a des rats de terre et des rats de mer. Des voleurs sur terre et des voleurs sur mer. Et je veux dire des pirates. Il y a aussi le péril des eaux, des vents, des rochers. Mais l'homme est néanmoins tout à fait solvable. 3000 ducats. Je crois que je peux accepter son billet.
Les bateaux ne sont que des planches, dit Shylock. Et oui, en cette deuxième moitié du XVIe siècle, les périls en mer sont innombrables, Marie-Céline Daniel.
Alors, ils sont innombrables. Alors d'abord, les expéditions sont très nombreuses. Alors l'Angleterre, encore une fois, enfin, contrairement à ce que souvent on pense, c'est plutôt modeste hein, par rapport à, notamment à l'Espagne, évidemment. Elisabeth ne va pas terriblement s'intéresser à ces expéditions-là parce qu'elles sont fort coûteuses et qu'Elisabeth est précautionneuse. Et donc, il va y avoir évidemment des expéditions qui, en Angleterre, vont être financées par des individus, en fait, et pas du tout par les caisses royales.
Dont elle touche sa part.
Alors elle est là aussi une certaine forme de pragmatisme. Et donc, elle va effectivement organiser les choses pour ne pas, en fait, risquer évidemment ses propres deniers, mais faire prendre le risque aux autres et puis en récupérer sa part. Et puis surtout, ce qu'elle va faire, et ça nous amène à la question des périls en mer, c'est qu'elle va elle-même orchestrer un certain nombre de périls. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des périls qui sont liés aux tempêtes, aux orages, mais aussi parfois à de la course, en fait, tout simplement. Et sous la période élisabéthaine, il y a une industrialisation, disons, des attaques par des corsaires anglais, des galions espagnols. Puisque évidemment l'exploration de ce nouveau monde est terriblement coûteuse, compliquée, et donc effectivement il y a une façon assez rapide de s'améliorer sur le plan économique, c'est d'attaquer voilà ces bateaux et de ne pas porter soi-même le coût et le risque. Et donc des gens comme Drake ou Raleigh qui sont des grandes figures de l'ère élisabéthaine, qui sont en fait aussi des militaires, hein, parce qu'il y a quand même une dimension aussi de défense du royaume par ailleurs, vont aller attaquer des galions espagnols qui reviennent en fait des Indes. Ce qui va considérablement courroucer Philippe II et qui va être en partie
d'Espagne.
Responsable.
Mmh.
Voilà, oui, pardon, Philippe II, roi d'Espagne, qui va et ses aventures maritimes vont en partie expliquer l'invincible armada, mais en tout cas l'entreprise de l'invincible armada en 1588, parce que effectivement, elle va essayer d'en tirer le meilleur profit. Alors encore une fois, elle récupère évidemment pas la totalité de ce qui est récupéré, mais en revanche, elle prend sa part et comme ça, gagne un peu de ces expéditions.
Et on peut dire tout de même que le commerce se développe en période de Dominique Boisblanquet, et William Shakespeare en est le témoin.
Alors oui, il en parle dans pas mal de pièces aussi. C'est le développement de la marine marchande qui est fortement parrainé par le... Alors là, c'est un ministre d'Elizabeth, William Cecil, qui va fixer un jour de jeûne pour qu'on achète la pêche. Et on va appeler ça Cecil's Wednesday, je crois, le mercredi de Cecil, puisque c'est le jour où on doit manger du poisson. Alors, la mer, elle est très présente, évidemment. Je pense qu'elle est plus présente autour de l'idée de l'Angleterre comme une forteresse assaillie. Il y a de très très belles images dans la pièce Richard II où on décrit cette petite île, ce joyau sur la mer Bleue.
Et donc les marchands
de plus en plus nombreux. Ils se sont... alors on parlait tout à l'heure de l'usure. Le crédit est indispensable. Parce que les aventures au loin doivent se financer. Alors, il y a énormément de débats pour savoir ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas. Francis Bacon dit avec ironie dans un de ses essais que tout le monde dit du mal de l'usure, mais tout le monde en profite d'une certaine façon, y compris l'Église catholique, qui a été, alors que le principe, c'est l'argent ne doit pas engendrer d'argent. C'est exactement ce que fait Shylock, c'est ce qu'il dit, mon argent fait des petits. Et donc, dans toutes les parties de la société, on la pratique en réalité.
Les pudeurs disparaissent.
L'armada qui était évoquée tout à l'heure, c'est l'arrière-plan des premières pièces historiques au moment où Shakespeare commence à écrire une série qui va retracer tout le siècle précédent et où on commence avec Henri VI et le début de la perte de la France qui avait été conquise par Henri V en nous battant à plate couture à Azincourt.
On va revenir à cette question de la guerre et de son financement. Peut-être encore un mot sur les marchands, Marie-Céline Daniel, parce que ce sont des marchands qui, je le disais, sont de plus en plus nombreux en cette deuxième moitié du XVIe siècle et qui se sentent peu représentés. Est-ce qu'on peut même dire, en s'avançant peut-être un peu, qu'ils aimeraient peser davantage politiquement, comme on va le voir un siècle plus tard?
Oui, alors il y a une société qui est, j'allais dire par définition, incroyablement conservatrice, mais effectivement des mouvements qui s'esquissent, des fortunes qui se font, et effectivement une société qui évolue avec une place de plus en plus importante accordée à l'argent. C'est-à-dire que dans un monde des siècles précédents où le prestige de la lignée ou du lignage faisait tout, finalement, là, et où après la possession de la terre, évidemment, venait comme élément d'ancrage, disons, on est vers une société qui se monétarise et où, effectivement, l'argent compte et il y a des fortunes considérables. On parlait de Gresham tout à l'heure, mais on parlait de Cecil, qui est donc le grand ministre le plus long, disons, du règne d'Elisabeth, qui vient de pas grand-chose, qui finit absolument richissime, comme les grands nobles autour d'Elisabeth, les favoris d'Elisabeth, vont quand même faire... énormément d'argent, grâce notamment au monopole, qui est un des phénomènes dont on pourra peut-être reparler de la fin du règne, qui est un énorme problème. Mais il va y avoir effectivement des fortunes qui vont se faire et un début de mélange, c'est-à-dire des mariages, notamment les fils cadets des familles nobles qui vont éventuellement aller voilà, se marier dans des familles très opulentes. Et donc, il y a un début de mobilité sociale qui, évidemment, en réaction, suscite assez logiquement une crispation, des lois somptuaires qui vont déterminer qui doit s'habiller comment pour que surtout on ne se trompe pas et qu'on sache immédiatement à qui on a affaire. Donc forcément, ça crée une crispation, mais la réalité des choses, c'est qu'effectivement, ça bouge un peu.
Oui, il y a des prémices, peut-on dire, de des bouleversements qui interviendront au XVIIe siècle, cette grande rébellion contre le roi Charles Ier entre 1642 et 1651, Marie-Céline Daniel.
Je suis pas sûre. Dominique a peut-être une meilleure réponse. Ouais, je suis pas sûre qu'on puisse la dater de là. Je pense que on est dans une. Enfin, le problème de Charles Ier et de la Révolution est d'abord un problème de positionnement du pouvoir royal qui n'est absolument pas en cause sous Élisabeth, même si elle est femme, même si elle est sans succession, ce qui évidemment est un problème. Cette question-là se pose pas. Et même par rapport à ses parlements, le Parlement va être quand même le gros problème de Charles Ier. Sa non-gestion du Parlement, ça va être son gros problème, de la Chambre des communes notamment. Élisabeth, il y a des prémices de choses. Il y a un débat sur la prérogative royale, il y a un débat sur la liberté d'expression. Mais tout ça, finalement, elle arrive à le gérer parce qu'elle a les bons ministres, parce qu'elle sait aussi assez bien se positionner là-dessus. Donc je suis pas du tout sûre qu'il faille y voir un début de quelque chose, pas aussitôt en tout cas.
Dominique Boisblanquet.
J'allais justement évoquer le Parlement parce que c'est une force montante, elle existe depuis longtemps. Et dès le début, le Parlement, c'est l'organisme qui donne de l'argent au roi. Parce que dans la tradition, le roi est censé vivre du sien, c'est-à-dire de ses revenus, et on lui accorde de l'argent en principe dans des circonstances exceptionnelles, par exemple pour faire la guerre, pour assurer la sécurité. Mais ça commence relativement tôt, où les membres du Parlement vont demander, d'abord très courtoisement, puis quand même de plus en plus impérativement, des réformes en remerciement des impôts qu'ils acceptent de faire lever. Alors, sous Élisabeth, effectivement, on ne remet pas en cause sa position à la tête du royaume, mais le Parlement est quand même de plus en plus bruyant dans la façon de réclamer un droit à la parole, un droit à surveiller pour son bien. Il y a des prises de parole de temps en temps qui sont sidérantes dans la façon dont on parle de l'amour de la souveraine et de la façon dont il faut absolument la guider et la maintenir dans le droit chemin.
France Culture.
Jenny, pourquoi avez-vous choisi Hamlet ?
Alors, j'ai choisi Hamlet parce que finalement, Hamlet aurait pu se passer aujourd'hui, je veux dire...
Entendez-vous l'écho ?
Pourquoi ça va mal partout ? Parce que on vit avec le doute, et si vous voulez, les angoisses d'Hamlet et ses passions m'ont intéressé, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça.
Tiphaine de Roquigny.
Voilà, c'est Johnny Hallyday qui nous parlait d'Hamlet, et on continue à explorer l'économie selon William Shakespeare avec Dominique Boisblanquet et Marie-Céline Daniel. Vous l'avez dit, Dominique Boisblanquet, le Parlement est toujours plus bruyant, turbulent, parce que...
Pardon,
non, finissez. À cette époque, il s'agit... pour Élisabeth Ière d'accorder ses monopoles. Hein. Et je voulais en venir à cela, à ces tensions qui surviennent à la fin du règne d'Élisabeth Ière, justement à cause de ces monopoles qui sont accordés aux nobles, Dominique Boisblanquet. Est-ce que ça provoque
des tensions ? Oui, mais ça commence par l'agitation, d'abord elle est religieuse, pendant très longtemps. Mais ça change effectivement dans les deux derniers parlements du règne où la question des monopoles soulève beaucoup de protestations. La reine essaye de les préserver parce qu'elle dit que ça fait partie de sa prérogative. Et là, il y a quand même un début d'ébranlement de ses droits. Elle est extrêmement habile, comme le disait Marie-Céline. Elle arrive à tempérer et même obtenir... Il y a un parlementaire qu'elle met en larmes à un moment donné. les comptes rendus sont assez détaillés sur les discours. Et donc, il y a aussi, dans le Parlement, une frange qu'elle-même repère assez vite, puritaine, et dont elle dit qu'il serait prêt à lui dicter sa conduite. Donc, cette frange-là du Parlement va prendre de plus en plus d'importance. Il y a beaucoup d'hommes de loi et beaucoup d'hommes de loi puritains.
Donc, contestation religieuse, mais contestation également vis-à-vis de ces monopoles, Marie-Céline Daillet.
Oui, alors, en fait, les monopoles, pour qu'on soit bien d'accord sur ce dont il s'agit, en réalité, c'est l'accord donc, par la souveraine, et elle considère que ça fait donc part de sa prérogative, que ça appartient à sa prérogative royale. Donc, en gros, la prérogative royale, c'est le pouvoir du souverain qui échappe au Parlement. Elle accorde, effectivement, des lettres patentes qui permettent à certaines personnes, qui ne sont pas forcément des nobles, alors de fait, ça va d'abord servir son entourage propre, et ce sont des nobles, d'avoir le monopole du commerce d'un certain nombre de biens. Alors, pour qu'on ait une idée de ce que ça représente, certains de ses proches, dans les monopoles qui sont souvent cités, le comte de Leicester, qui est un des favoris les plus importants jusque en gros 1588, obtient le monopole de l'importation des vins doux. Donc ce sont des sommes considérables. Mmh. Raleigh, dont on parlait tout à l'heure, va obtenir le monopole des cartes à jouer. Donc
voilà, mines d'étain aussi.
Voilà, c'est quand même voilà, ce sont des charges on imagine mal, même dans un monde qui évidemment, j'allais dire moins opulent que le nôtre, ça représente effectivement des gains considérables. Et il va y avoir et par ailleurs, il y a des ventes de charges et des ventes de monopole aussi que la couronne orchestre et là encore, aujourd'hui comme, enfin hier comme aujourd'hui, l'inflation de ces monopoles paralyse à un moment donné l'économie. Ce qui est censé en gros aider une forme d'innovation, en fait, devient une sinécure. Et donc, effectivement, les parlementaires, la Chambre des communes va s'insurger, considérant que tout ça participe de l'inflation, puisque évidemment les prix augmentent à cause des monopoles, etc. Et donc va essayer à partir, il y a deux parlements, celui de 1597 et celui de 1601. Qui vont véritablement se faire autour de cette question-là, où effectivement, comme le disait Dominique, les parlementaires vont essayer de monnayer en quelque sorte les impôts qu'ils vont voter pour financer les guerres en Irlande, en l'occurrence à ce moment-là, l'obtention de la suppression d'un certain nombre de monopoles. Et Elisabeth va être en relative difficulté, d'abord parce qu'elle est très âgée à ce moment-là, personne ne sait qu'en 1600 elle va mourir, mais enfin, elle est de fait, elle meurt quelques mois plus tard, et elle est en difficulté parce qu'il y a une révolte, qui est la révolte des sexes en 1601, qui la met en difficulté. Et donc, il va falloir des trésors d'ingéniosité de la part de la reine pour retourner la situation. Et elle va le faire en convoquant dans son palais de Whitehall, puisqu'elle ne peut elle-même pas plus se déplacer, un certain nombre de membres de la Chambre des communes, devant lesquels elle va faire un grand discours, qui est resté comme le Golden Speech, où elle fait une espèce de testament politique et où elle leur explique que, en fait, ils sont mieux à leur place qu'à la sienne et qu'elle a tout donné et que, elle fait au mieux. Mais cette question va devenir véritablement un problème politique et qui va être traduit par les parlementaires dans une reconfiguration de quelle est la prérogative et quelle est la prérogative parlementaire.
Et comment William Shakespeare se positionne-t-il par rapport à tout cela, Dominique Boisblanquet?
Non, c'était autre chose que j'avais en tête, le fait que la reine n'a pas beaucoup de ressources finalement parce que l'impôt rapporte de moins en moins. Et c'est une des grosses difficultés parce qu'il y a des quantités d'exemptions, en particulier chez les plus riches. Et c'est aussi un sujet très débattu au Parlement. Alors, Shakespeare ne parle pas particulièrement des impôts, autant que je n'ai pas d'exemple qui me vienne à l'esprit. Mais il a une pièce, vous l'avez citée tout à l'heure, Timon d'Athènes, dont on aura peut-être l'occasion de...
Allez-y, si vous pouvez nous en dire quelques mots.
Timon d'Athènes se situe donc dans le passé très lointain de l'histoire d'Athènes. Et un très riche seigneur, Timon, fait preuve d'une munificence qui était considérée à l'époque élisabéthaine souvent comme une vertu. On parle justement de la munificence du comte d'Essex, parce que ça vient peut-être de l'évangile, il faut qu'il y ait des miettes qui tombent de la table des riches. Donc ça n'est pas encore un sujet de réprobation. Et dans sa volonté de donner, il essaye en fait d'instituer une société idéale qui serait régie par des liens d'amitié. Et comme il a cette énorme fortune, il croit qu'il a une énorme fortune parce qu'en réalité, au début de la pièce, il l'a déjà quasiment dilapidée. Il espère substituer par le don, justement, les liens de commerce. Et au moment où il sait qu'il est ruiné, il compte sur ses amis qu'il a abondamment couverts de dons pour l'aider à sortir de ce mauvais pas. Et tous se désistent sous un prétexte ou un autre et le laissent à sa misère. Et il s'enfuit dans la nature au bord d'une plage où il va trouver de l'or.
Et quelle est la morale de cette histoire, selon Shakespeare, Dominique?
Il y a surtout un constat d'une espèce d'idéalisme admirable, parce que le personnage est admirable. Peter Brook l'avait monté en très, très bien, mais en même temps, en détournant un peu, en donnant le beau rôle à un personnage qui, en réalité, dans la pièce, est très cynique et lui-même un profiteur, qui ne cesse de cracher sur tout ce qu'il voit, mais qui, en réalité, se nourrit de tous ces gens qu'il parasite. Et il a l'air de donner la leçon à Timon, lui disant que sa générosité, en fait, n'est qu'une façon de dominer. Et la pièce ne dit pas ça. Elle montre vraiment une espèce de société qu'il aurait voulu constituer et qui échoue. Et sa générosité absolue se retourne en haine absolue. Et la fin est terrible parce qu'il dit qu'il voudrait que tout s'efface, même la parole.
Avant de nous quitter, j'aimerais vous faire entendre un dernier extrait d'une pièce de William Shakespeare, Richard II, dans lequel le roi part faire la guerre en Irlande.
N'avez-vous pas observé comme nous sa courtoisie envers le bas peuple, l'humble politesse par laquelle ils veulent gagner? Ne l'avons-nous pas vu faisant la cour à de pauvres artisans par ses sourires et sa feinte résignation, comme s'il avait voulu emporter leur affection en exil? Il a tiré son bonnet à une marchande d'huîtres, à deux charretiers qui lui avaient souhaité la protection de Dieu. Avec Dieu, je vous remercie, mes compatriotes, mes amis, exactement comme si l'Angleterre était son héritage, et comme si lui était l'espérance de nos sujets.
Il est parti. Ne parlons plus de lui. Maintenant, mon suzerain, il faut promptement agir contre les rebelles irlandais. Il y va du salut de votre majesté.
Nous irons en personne à cette guerre. Nos coffres ne pouvant plus subvenir à nos dépenses militaires, nous devrons affermer notre domaine royal. Le revenu nous fournira les moyens de faire face à cette guerre d'Irlande. Et si ça ne suffit pas, nos lieutenants obtiendront des blancs-seings. Ils pourront taxer ceux qu'ils connaîtront pour riches. Nous allons partir pour l'Irlande, immédiatement.
Voilà Henri Roland et Daniel Lecourtois dans une mise en scène de Richard II à la Comédie Française, avec cette question du financement de la guerre qui est au cœur de cette pièce. Et puis on l'a dit, Elisabeth Ier cherchait à préserver la paix, mais sous son règne, l'Angleterre va tout de même entrer en conflit avec l'Espagne. Il y aura cette victoire des Anglais sur l'invincible Armada en 1588, victoire donc contre les Espagnols. Et vers 1611, Shakespeare quitte la scène londonienne, il se retire à Stratford où il meurt en 1616. Merci beaucoup Marie-Céline Daniel et Dominique Gois-Blanquet de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission, de nous avoir fait ainsi entrer dans l'univers économique de William Shakespeare. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage, Dominique Gois-Blanquet, Shakespeare et l'invention de l'histoire, guide commenté du théâtre historique, qui est paru aux éditions Classique Garni.
Aucun esprit, aucun démon, mauvais sort ou mal.
la fin d'Entendez-vous l'écho. On se quitte avec Soleil, extrait du nouvel album d'Émilie Simon, Solaris. Demain, à l'occasion des 70 ans de la TVA, Aliette Auvin reviendra sur cette taxe jugée antisociale avec Michaël Zemmour et Alexis Spire. D'ici là, vous pouvez écouter toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Retrouvez-nous également sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho et en vidéo sur YouTube.